le magazine des Nations Unies.
Plus d'un demi-million de réfugiés vivent en RDC contre près de 800 000 Congolais partis sous d'autres cieux dans les pays africains. Le 20 juin, journée mondiale des réfugiés, la cérémonie officielle de cet événement à Kinshasa, mercredi dernier, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur congolais, ainsi que la représentante régionale du SR, ont mis l'accent sur la prise en charge et l'hospitalité dont doivent bénéficier les réfugiés en République démocratique du Congo. La RDC multiplie des stratégies pour assurer un traitement maximal aux personnes vivant avec le VIH, et ce, à travers un plan national de rattrapage de 18 mois. Le réseau des journalistes et communicateurs pour la population et le développement s'engage donc à appuyer ce plan national avec le soutien de l'ONU-SIDA. Les détails dans cette édition. Enfin, l'ONG internationale Oxfam apporte des vivres aux personnes vivant dans les zones affectées par l'épidémie à virus Ebola dans l'Équateur. Raphaël Mbouyi, directeur des programmes à Oxfam, est notre invité. Il nous en dira davantage.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous. Le mercredi dernier, les réfugiés du monde entier étaient à l'honneur. Le 20 juin de chaque année, en effet, c'est la journée mondiale des réfugiés. La cérémonie officielle de cet événement à Kinshasa a été rehaussée par la présence, côté gouvernement, du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, et côté ONU, de la représentante régionale du ACR. Les deux personnalités ont évoqué la problématique de la prise en charge et l'hospitalité envers les réfugiés vivants en RDC. Reportage Jean-Pierre Lali Coco.
Dans son adresse, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, souligne le caractère tragique de l'histoire des réfugiés. Henri Movasakani peint cette tragédie.
Des êtres comme nous ont été victimes de démembrements, de dérèglements, des incidents, des exactions, des conflits, de persécutions, ont contraint des millions de populations à quitter leur milieu de vie traditionnel pour se retrouver dans un ailleurs qui peinent à les intégrer.
L'orateur rappelle cependant que si ce drame est séculier, il a été exaspéré par les deux guerres mondiales, amplifié par des conflits. Movasakani n'hésite donc pas à tirer la leçon de l'histoire.
La leçon de l'histoire, c'est que ceux qui se targuent d'être porteurs de valeurs de l'humanité doivent apprendre la modestie. Ils n'ont pas fait mieux que ce que des pays pauvres ont fait. Les réfugiés africains sont beaucoup plus en Afrique même.
La modestie, c'est aussi reconnaître que tout le monde peut se trouver en situation de réfugié au gré des circonstances, d'où la solidarité internationale, comme le souligne la représentante régionale du ACR en RDC.
Avec le gouvernement et nos partenaires, nous travaillons ensemble pour donner ce qu'ils ont besoin de vivre.
La RDC héberge à ce jour 500 000 de réfugiés.
Alors si la RDC accueille à ce jour plus d'un demi-million de réfugiés sur son territoire, combien de Congolais sont allés se réfugier sous d'autres cieux en Afrique? Réponse du représentant régional adjoint du ACR, Monsieur Olivier Burr, à la conférence des Nations Unies du mercredi dernier à Kinshasa, dans ses propos recueillis par Honoré Missenga Kalala.
Je voudrais parler aussi d'un deuxième développement qui est souvent ignoré, c'est la présence de réfugiés de la République démocratique du Congo dans les pays voisins. Cette année, on a constaté beaucoup d'arrivées en Ouganda en raison du conflit qui a lieu dans le Nord Kivu et l'Ituri. Les réfugiés congolais de la RDC sont maintenant au nombre de 772 000 en Afrique, mai 2018. C'est-à-dire qu'ils sont encore plus nombreux que les 534 000 réfugiés en République démocratique du Congo, principalement en Ouganda, en Tanzanie, dans d'autres pays voisins, mais aussi au Kenya et en Afrique du Sud.
Autre chose, le réseau des journalistes et communicateurs pour la population et le développement s'engage à appuyer le plan national de rattrapage de traitement du VIH. Ils ont élaboré un plan d'appui à ce canevas national ce mardi au cours d'un atelier d'échange d'informations au siège de l'ONU-SIDA à Kinshasa. Le point avec Jean-Pierre Lali Coco.
Selon l'ONU-SIDA, la RDC est parmi les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui ont connu un retard dans le traitement du VIH-SIDA, d'où la mise en place d'un plan national de rattrapage des traitements. Ce plan porte à un peu plus de 2000 le nombre de personnes vivant avec le VIH. À l'ouverture de l'atelier, le directeur pays de l'ONU-SIDA, le docteur Marc Saba, a relevé toutefois le progrès réalisé par la RDC.
La RDC est passée d'environ 125 000 personnes sous traitement à 213 000. personnes sous traitement aujourd'hui. Un grand pas a été donc accompli.
Et pour le président du réseau des médias africains de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le sida, Bamba Youssouf, le journaliste ont un grand rôle à jouer.
Les journalistes ne sont plus juste des cibles dans nos pays en matière de lutte contre le sida. Nous sommes considérés comme des acteurs et nous devons prendre notre place dans nos différents pays.
Ce rôle d'acteur est renforcé par l'engagement citoyen du journaliste Mbuyal Mangal, consultant national à l'UNICIDA.
Au-delà de ce qui n'est pas visible, qu'on puisse continuer à soulever des questions, provoquer le débat, pousser les décideurs à prendre une décision, aller dans le sens de résoudre le problème.
Les réflexions issues de cet atelier seront coulées sous forme d'un plan d'appui au plan national des rattrapages avec le soutien de l'UNICIDA.
Autre nouvelle, un droit de l'homme cette fois-ci, les journalistes de Kinshasa sensibilisés au sens de la responsabilité pendant la période électorale. Un atelier organisé dans ce sens par le Bureau conjoint Nations Unies aux droits de l'homme a eu lieu mardi dernier. À cette occasion, le coordonnateur de l'unité justice transitionnelle et lutte contre l'impunité au Bureau conjoint, M. Kofi Kunte, a appelé les journalistes congolais à jouer leur rôle, particulièrement dans ce contexte du processus électoral, au-delà des risques qu'ils courent dans la pratique de leur métier. Les propos de Kofi Kunte, recueillis par Honoré Missinga Kalala.
Au-delà de ces risques, il n'en demeure pas moins que le journaliste a aussi une grande responsabilité. Cette responsabilité d'informer, de traiter de manière équitable et professionnelle les informations. Et ceci doit être le reflet de la qualité professionnelle du journaliste ou bien de l'agent acteur donc de cette information. C'est par le canal de vos communications, de vos informations, que la population va se renseigner sur les différents programmes des différents candidats. Parce que c'est la période où vous êtes très sollicité. Donc, le journaliste doit avoir un rôle très important à jouer dans cette période et le point cardinal reste le professionnalisme et la transparence.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Et nous revenons sur l'interview que la princesse de Jordanie a accordée le jeudi 14 juin au Maghouen. C'était à l'issue de sa visite dans le Kassai central et le Tanganyika, deux provinces en proie à des conflits. Selon elle, la situation alimentaire des enfants en RDC est critique et mérite une réponse immédiate. La princesse Zeid, qui est ambassadrice de la paix du PAM, s'est engagée à faire un plaidoyer lors du conseil d'administration de cette agence onusienne. La princesse a répondu aux questions de Jean-Pierre Elali Coco, dont ses propos traduits par le directeur pays du PAM.
Son Altesse, princesse de Jordanie, vous êtes venu en République démocratique du Congo. Vous avez été dans deux provinces de la République démocratique du Congo, Kassai et Tanganyika. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain?
I went with WFP to understand.
Je suis venu en RDC avec le PAM pour aller sur le terrain et comprendre un peu mieux la problématique d'insécurité alimentaire et de nutrition qui affecte les communautés dans ce pays et dans les zones qui ont été affectées.
Après avoir visité cette partie de la République démocratique du Congo, après avoir vu la souffrance des populations, notamment des enfants et des femmes malnutries, et vous allez à Rome assister au conseil d'administration le 18 juin prochain. Quel sera votre message?
That the needs are critical, that we must respond immediately.
Mon message sera d'abord que c'est une situation qui est critique, une situation qui nécessite une réponse immédiate, une réponse intégrée, avec la collaboration, la coordination de tous, le gouvernement, les agences des Nations Unies, les ONG, le secteur privé, les médias. Tout le monde doit contribuer à apporter une réponse immédiate. Et c'est une question de mois. Dans les 6 mois, il faut que cette réponse soit augmentée de manière significative.
Madame la princesse, est-ce que vous êtes vraiment optimiste que votre voix sera entendue? Est-ce que vous êtes optimiste quant à la mobilisation de toutes ces personnes, de bonne volonté qui doivent intervenir parce que vous êtes aussi ambassadeur humanitaire, ambassadeur de la paix?
I can't speak for other people, but for me, I will do my very, very best.
Je ne peux pas parler pour les autres, mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, je ferai tous mes efforts possibles pour que la voix de ces gens soit entendu. Je pars d'ici avec une petite partie du Congo avec moi parce que ce que j'ai vu, les gens que j'ai vus sont des gens extraordinaires, des gens qui ont une force extraordinaire, un engagement extraordinaire à faire ce qu'ils sont en train de faire. Et moi, de mon côté, la moindre des choses que je puisse faire, c'est de me battre de toutes mes forces pour que leur voix soit entendue.
Vous dites vous-même que vous emportez une partie du Congo dans votre cœur. Est-ce qu'on peut espérer aussi que vous rentrerez au Congo pour faire l'évaluation de ce qui a été fait ici en République démocratique du Congo après votre plaidoyer?
I would love to come back. I think the extraordinary staff of WFP need a holiday after this trip. We have worked very hard, but there is so much more work.
J'adorerais revenir au Congo, revenir voir les collègues du PAM qui ont travaillé très très dur pour aider à organiser cette mission. Après mon départ, ils vont sûrement prendre un peu de vacances. Mais ceci pour vous dire que je suis vraiment engagé à suivre et à faire le suivi de ce qui va se passer dans ce pays.
Radio Kapi vous remercie, la princesse.
Merci, très très bien. C'est mon plaisir.
En plus bref, une fois encore pour la journée de réfugiés, plusieurs activités ont été organisées par l'ESR et ses partenaires dans les 5 camps de réfugiés centrafricains dans les provinces du Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et du Bazouélé. Séances de sensibilisation, pièces de théâtre, danses traditionnelles congolaises et centrafricaines, exposition des produits des champs communautaires, autant d'activités réalisées dans les différents sites abritant les réfugiés centrafricains dans ces régions du nord de la RDC. Déjà la veille, le 19 juin, une conférence débat sur le mandat du SR, les droits et devoirs des réfugiés, ainsi que les différentes réalisations des agences onusiennes dans les 3 provinces a eu lieu à Kbadolité. Et puis, le directeur du cabinet du ministre de la Pêche et de l'Élevage et le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO en RDC, ont procédé le jeudi 14 juin 2018 à Kinshasa à la remise officielle du matériel et des réactifs au laboratoire vétérinaire de Kinshasa, de Lubumbashi et de Goma. Cette dotation s'inscrit dans le cadre du projet FAO dénommé Soutien au programme de sécurité sanitaire mondiale, PASEM, dans la lutte contre les zoonoses et le renforcement de la santé en Afrique. Le montant total de cette dotation, deuxième du genre, est de 65 000 dollars américains. Il est donc constitué d'environ une tonne de réactifs, de matériel et équipement. Le troisième lot de matériel et équipement va être envoyé au courant du trimestre prochain. Enfin, la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies en RDC, Madame Kimbol Duke, et le ministre d'État et ministre du Plan Bahati Lukwebo ont présenté jeudi dernier le rapport national sur la cartographie et niveau de référence des objectifs de développement durable, ODD, en RDC, réalisé par l'Observatoire Congolais du Développement Durable avec l'appui du PNUD. Ce rapport à 7 objectifs évalue donc le niveau de mise en œuvre des ODD. Il s'agit des ODD 3, bonne santé et bien-être, 4, éducation de qualité, et 5, égalité entre les sexes qui sont en situation favorable. Les ODD 6, eau propre et assainissement, 9, industrie, innovation, infrastructure, et 11, ville et communautés durables sont stationnaires. Quant aux autres objectifs restants, ils sont en situation plutôt défavorable.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Dans la province de l'Équateur, l'ONG International Oxfam vient d'initier une action de fourniture des vivres aux personnes qui vivent dans les zones touchées par l'épidémie à virus Ebola. Il s'agit plus particulièrement des villages des zones de santé d'Iboko et de Bikoro dans le territoire de Bikoro. Quel est l'intérêt de cette opération? Quels sont les critères de sélection des populations bénéficiaires? Élément de réponse avec Raphaël Mbouy Ilunga et les directeurs d'Oxfam des provinces ouest de la RDC. Il est interrogé ici par Dominique Wolombi Mongapang.
Monsieur Raphaël Mbouy, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes coordonnateur d'Oxfam dans la province de l'Équateur où il s'est produit une épidémie. Et votre organisme fournit la nourriture à des milliers de personnes qui sont touchées par l'épidémie d'Ebola dans la province de l'Équateur. Nous voudrions savoir quel est l'intérêt de cette opération dans un contexte d'épidémie dans le territoire de Bikoro qui est touché par l'épidémie d'Ebola.
Dans le contexte actuel de l'épidémie,
L'intérêt de cette opération s'inscrit dans le cadre de l'arrêt de la chaîne de transmission et de l'appui aux ex-malades ou les personnes qui sont passées par le centre de traitement d'Ebola pour leur permettre de se réorganiser. Quand je dis l'arrêt ou la rupture de la chaîne de transmission de l'épidémie, c'est effectivement permettre aux gens qui sont suspectés, par exemple, ou qui ont été de contact de malades, de rester chez eux pour ne pas vraiment faciliter, cas échéant, la transmission de l'épidémie.
Mais au-delà de la transmission de l'épidémie, parce que vous n'êtes pas une structure médicale, vous êtes une structure d'intervention humanitaire. Nous savons que ces populations dans les localités qui sont touchées par l'épidémie d'Ebola, ce sont des populations qui sont un peu en quarantaine. Les commerçants d'Mbandaka qui allaient acheter leurs produits agricoles, parce que ce sont des paysans qui produisent essentiellement des produits agricoles, n'y vont plus. Est-ce que c'est dans ces cadres-là que vous intervenez?
En fait, ces personnes-là sont encouragés, par exemple ceux qui sont considérés comme les contacts, sont encouragés à rester chez eux pendant un temps, une période de temps de 21 jours, pour permettre d'observer s'ils vont développer la maladie ou pas. Donc pendant cette période de temps où ces personnes sont encouragées à rester chez eux, il est tout à fait responsable de la part du gouvernement avec les partenaires qui l'appuient, qu'ils assurent une certaine prise en charge de ces personnes pour ne pas les forcer à aller chercher à se prendre eux-mêmes en charge.
Et comment se passe l'opération sur le terrain? Nous pensons peut-être que vous coordonnez votre action des fournitures de la nourriture à ces populations avec les comités de crise qui est mis sur place.
Les actions sur terrain sont coordonnées. Il y a, comme vous le savez, plusieurs commissions qui sont mises en place dans le cadre de la gestion de l'épidémie. Il y a particulièrement la commission surveillance qui s'occupe effectivement de suivi des contacts et de personnes déchargées également. C'est cette commission-là qui dresse les listes de personnes qui doivent être éligibles à cet appui. Et il y a aussi la commission prise en charge psychologique qui travaille avec ces personnes de manière vraiment très proche pour leur encadrement psychosocial. Donc c'est en coordination particulièrement avec ces deux commissions que nous travaillons pour arriver à faire cette distribution qui est une distribution spécifique dans ce sens qu'elle s'est fait à domicile et s'adresse uniquement aux personnes déchargées et à leurs contacts définis comme tels.
Puisque vous parlez des critères d'éligibilité, quels sont ces critères-là? À qui vous donnez des vivres? Comment vous faites les choix?
Ce n'est pas nous qui faisons les choix. Il y a la commission surveillance qui est la pièce maîtresse dans cette activité. Au fait, les personnes, il y a des personnes définies comme telles qui sont éligibles à cette assistance. Ces personnes sont ce qu'on appelle les déchargés de centres de traitement d'Ebola. Ça, c'est la première catégorie.
C'est-à-dire,
on peut les appeler les ex-malades, c'est-à-dire les gens qui sont passés par le centre de traitement et qui ont été guéris, ou les autres personnes, toute autre personne qui a été suivie au niveau de centre de traitement et qui a été déchargée après un temps. Toutes ces personnes dont nous les considérons comme déchargées de centre de traitement et sont éligibles à cet appui. La deuxième catégorie, c'est ce que nous appelons les contacts. Il y a les contacts qui sont définis aussi comme tels, sont des personnes qui ont été directement en contact avec les malades ou les personnes déchargées de centres de traitement. Il y a leurs familles également qui se rentrent dans cette catégorie des contacts.
Est-ce que cette action-là, vous les faites en partenariat avec d'autres organismes tels que l'UNICEF, les PAM et autres?
Il faut dire que Oxfam est un partenaire opérationnel d'autres acteurs humanitaires également avec lesquels nous travaillons depuis plusieurs années en République démocratique du Congo et ailleurs, notamment le PAM dans le cadre de distribution de vivres et l'UNICEF également. C'est avec ces deux partenaires que nous sommes en train de travailler à faire cet appui. Il y a des paquets qui sont définis comme tels en termes de vivres. Ce n'est pas nous ici qui décidons de quoi donner, mais la composition de kits a été définie en concertation avec le PAM, le gouvernement à travers le PRONANUT et d'autres partenaires UNICEF et tout ça au niveau de Kinshasa. Ils ont défini le kit qui doit être distribué aux bénéficiaires. Et ce kit comprend les céréales, le riz principalement, il comprend le super céréal, donc le soja amélioré et d'autres produits comme les légumineuses, l'huile végétale.
Vous êtes sur le terrain, vous distribuez des vivres à la population. Est-ce qu'on peut se faire une idée de la durée de cette opération?
Les malades ne restent pas définitivement malades. Elles sont déchargées ou les gens qui passent par les CT sont déchargés après un temps. Les contacts aussi ne restent pas éternellement. Ils sont suivis pendant 21 jours. Ce qui fait que la durée pour ces deux catégories, la durée de distribution pour les personnes contacts, elle est de 21 jours maximum, c'est-à-dire la période de leur observation, de leur suivi. Et pour les personnes déchargées, la durée est de 3 mois. Ça leur permet de se réorganiser après cette période de maladie pour reprendre le contrôle de leur vie, reprendre leur activité normalement.
Le MONUSCO, à travers sa section des affaires civiles, a remis officiellement ce mercredi 2 abris construits à Béni en faveur des motards de cette ville. Ce projet, financé à hauteur de plus de 8 000 $ américains, permettra aux motards de Béni d'avoir un endroit de stationnement de leurs engins pour ainsi lutter contre les accidents de circulation. En effet, la remise de ce projet intervient 24 heures après la formation par la police de la MONUSCO UNPOL d'environ 300 motards de Béni sur les règles de circulation et de sécurité routière, ainsi que le danger de la route. Samuel Mbaï, porte-parole de l'Union nationale des taximans des motos de Béniville, revient sur l'importance de ces abris au micro de Martial Papi Moukeba.
Ces 2 abris, l'un est construit à la mairie et l'autre est construit dans les enceintes de la commune de Béou, ici à Ville de Béni. C'est à Mabolio, mais c'est dans le quartier Benengou les deux. Chaque abri peut recevoir au moins 15 motards. Le point positif de ces abris, d'abord, vous savez que chaque parking a ce que nous appelons Kamati. Ces abris-là sont spécifiques parce qu'ils sont construits à matériaux qui sont durables. Vraiment, ce modèle, ces abris viendront apporter du nouveau dans l'exercice de métier de motard. Parce que là, nous avons déjà dit à nos motards que c'est là qu'ils vont chaque fois attendre les clients et les clients vont chaque fois les rencontrer là-bas. Et ça va empêcher les accidents, oui, parce que nous venons de faire 5 jours ici à la MONUSCO Madiba en train de suivre la formation. Et les motards sont déjà vraiment bien sensibilisés pour réduire sensiblement les cas d'accident. Et un motard qui va encore commettre, je ne sais pas, des bavures à la route et ainsi de suite, nous allons trouver que c'est un troubadour qui ne nous a pas bien suivis.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Y a-t-il dans l'agenda du ACR un programme de rapatriement volontaire des réfugiés congolais au Kassai en Angola? Suivez cette question, bien évidemment, la réponse du représentant régional adjoint du ACR, RDC.
Lambert Lambé du journal Émergence. Je voudrais juste poser la question en rapport avec le réfugié congolais du Kassai qui se trouve en Angola. Est-ce que le ACR a un agenda pour le rapatriement de ce Congolais qui voudront volontairement regagner leur pays? Et quelle est aujourd'hui la situation dans l'ensemble de ces Congolais qui se trouvent en Angola?
Bon, vous connaissez bien la protection parce que vous avez parlé de retour volontaire et donc j'apprécie très fortement d'avoir ajouté ce mot-là parce qu'en effet, ce sont les réfugiés qui choisissent selon la perception qu'ils ont de la situation de leur pays d'origine s'ils veulent retourner ou pas. Pour le moment, nous n'avons pas encore de réfugiés qui sont venus massivement nous dire qu'ils veulent retourner dans les zones dont ils sont venus. Nous savons que d'autres sont revenus de manière spontanée par leurs propres moyens et malheureusement, une fois retournés en République démocratique du Congo, se retrouvent souvent encore une fois déplacés. Donc ils n'ont pas toujours la possibilité de retourner dans leur village d'origine en raison de problèmes entre communautés. Donc nous suivons de près la situation. Nous aurons par exemple très bientôt une réunion avec nos collègues d'Angola, ce qu'on appelle un cross-border meeting, où nous allons évaluer la situation parce qu'il faut nous préparer si un jour il y aurait retour.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour. «
Je réponds au nom de Niampala Batouli Guy Rouget, c'est mon prénom. Je suis effectivement marié et père de plusieurs enfants, détenteur d'un diplôme au niveau secondaire en pédagogie générale, bien entendu, et je détiens également un diplôme universitaire en pédagogie appliquée. À cela, il faut ajouter plusieurs autres brevets, certificats, diplômes, notamment dans le journalisme en zone de conflit, journalisme narratif, en développement durable, en programme sur le VIH-SIDA, etc. À l'heure actuelle, j'ai continué aussi, il faut le dire, à étudier dans une université africaine. Alors, pour le moment, je suis journaliste, reporter, producteur à la radio Capi Congo Central, basée précisément dans la ville de Matadi. Mon rôle est de recueillir des sujets, les discuter, en faire pratiquement un produit fini, c'est-à-dire recouper, traiter, monter et l'envoi pour diffusion à la rédaction centrale à Kinshasa. Dans mes tâches quotidiennes, la première des choses que je fais dès que j'arrive au bureau, c'est de choisir, de voir les sujets du jour, d'actualité, recueillir suffisamment d'éléments auprès de sources et autres contacts. Je fais également souvent le monitoring des différentes chaînes de télé et de radio de la ville de Matadi, et j'appelle aussi certains confrères qui me contactent également s'il y a des informations à nous filer pour justement les traiter et les diffuser. Et je les présente donc à la conférence de rédaction chaque matin à 8h30. Aussitôt les orientations et les échanges avec la rédaction centrale de Kinshasa terminée, je fais donc ce que je viens de dire tantôt, j'envoie l'élément fini pour diffusion à Kinshasa. Je réalise également des traductions en Lingala qui viennent d'autres provinces, et il m'arrive aussi de réaliser des dossiers et magazines à d'autres émissions de Radio Capital que Dialogue entre Congolais ou les magazines des jeunes. Nous descendons chaque fois sur le terrain afin de réaliser de reportages, et etc. Avant Radio Capi, j'ai plus œuvré dans l'enseignement au niveau secondaire pendant plus de 3 ans. S'en est suivi mon parcours dans une ONG de la Banque mondiale de démobilisation et de réinsertion des ex-enfants soldats. Nous sommes là dans le territoire de mandat, et juste après cette ONG, j'ai fait mon premier test en 2005 à Radio Capi à Matadi. Nous étions 35 candidats, on a été sélectionnés à 6, et après l'interview, devant, je me rappelle, Michel Biolay, un des responsables de la Radio Capi Fondation Hirondelle, il y avait également Étienne Rogéry, l'un de mes rédacteurs en chef. À cela, il faut ajouter Jean-Claude Toumba Kamanga, ils m'ont tous formé, je dois le dire, et sur les 6, 2 personnes ont réussi pratiquement, et j'étais parmi les deux. Et voilà en résumé la petite histoire en ce qui concerne mon embauche dans Radio Capi et pratiquement mon parcours aujourd'hui fonctionnaire des Nations Unies en RDC, bien entendu. Alors, pendant mes temps libres, je lis beaucoup. J'ai fait des recherches sur l'Égypte ancienne à tous les niveaux, spirituels et sur les connaissances léguées par nos ancêtres. Pour cela, vous me permettrez de citer l'un de mes maîtres, c'est Cheikh Anta Diop. Outre ces recherches, j'aime le football, je joue presque chaque dimanche. J'écoute trop de la musique, souvent quand je travaille, et ça ne me gêne jamais. En ce qui concerne la nourriture, je m'adapte à tout. Mais quand il s'agit de faire effectivement un choix, j'aime manger le liboké de mpossé, une forme de chenille blanche et jaune avec poisson frais, accompagné de touka, c'est une chikwangue traditionnelle. Et j'aime trop le limbondo, sous forme de feuilles de manioc préparées autrement. Alors, pour terminer, par rapport à mes projets d'avenir, je vois ma vie après Radio Capi dans 3 domaines. Le journalisme comme patron d'une grande agence de presse. J'adore également, je compte également être un grand diplomate international. Je me vois grand acteur de résolution des conflits et aussi grand agriculteur. Enfin, je dois également enseigner les connaissances africaines. Voilà ce que je ferai après ce merveilleux boulot que je suis en train de faire aujourd'hui à la Radio Capi. J'aime toujours terminer par cette maxime africaine qui dit « Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse ne peuvent que chanter la gloire du chasseur. » Merci.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Retenir dans vos agendas pour la semaine qui commence. Deux événements donc pour ce 26 juin, la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues, mais également ce sera la journée internationale contre la torture. Voilà, c'est la fin de votre magazine des Nations Unies qui vous a été présenté par Tina Salama, mise en onde par Bob Landou, à la coordination, reportage et réalisation, Jean-Pierre Elali Coco, au reportage également Honoré Missenga Kalala, sous la supervision de Julien Niamoni. À bientôt sur Radio Kapi. Portez-vous bien. Ciao.